France Inter.
C'est un test préventif effectué jeudi qui a révélé la présence du virus. La décision est alors prise d'abattre les 3000 canards, chapons, pintades et poulets présents sur cette exploitation. Un troisième cas de grippe aviaire en une semaine, et c'est le traumatisme de 2016 et 2017 qui ressurgit. Près de 30 millions de canards avaient été abattus lors de ces deux épisodies.
Les chiffres sont affolants, mais l'énumération des abattages de volailles ne semble plus vraiment attirer l'attention. Pourtant, l'épizootie de grippe aviaire est sans précédent, dévastatrice comme jamais. Le virus influenza aviaire, d'après son nom scientifique, est responsable d'une crise inédite en France. Entre octobre 2021 et fin mai 2022, en 8 mois seulement, 22 millions d'animaux d'élevage ont été tués, des poules, des oies, des canards entre autres. Sur la même période, mais l'année d'avant, c'était 4 fois moins. Cette flambée des cas fragilise toute une filière, contrainte de s'adapter, quitte à chambouler les méthodes de travail.
Ça se développe à une vitesse folle. Puis on ne peut rien y faire malheureusement. Ça se balade dans l'air, c'est pas une erreur humaine, c'est pas... On peut rien y faire.
D'ordinaire, c'est la période hivernale qui donne lieu à des contaminations majeures. Sauf que l'an passé, et c'est ce qui a rendu cette crise particulière, le virus a circulé durant toutes les saisons, devenu comme insaisissable. Infime espoir pour les professionnels, l'arrivée à l'automne d'un vaccin.
La première chose, la première protection, c'est d'éviter que le virus rentre. Donc même si vos animaux sont vaccinés ou pas vaccinés, c'est le premier rempart, on va dire. Et si on pense que la vaccination va tout résoudre, ce sera faux et on pourrait avoir une situation qui serait même pire que sans vaccination.
Depuis l'été dernier, 315 foyers ont été enregistrés dans le pays et pas seulement dans le sud-ouest, région habituée à ces crises depuis près de 10 ans. Désormais, le virus gagne du terrain et remonte peu à peu, et même jusqu'en Bretagne. Dans la région Pays de la Loire, 5 départements ont été touchés pour la première fois l'an passé. C'est ici que se trouvent les plus grandes exploitations avicoles du pays. Nous commençons ce reportage en Vendée, dans une ferme sinistrement silencieuse. L'éleveur qui accueille Lise Roseveille et Geoffrey Marianne a dû faire abattre tout son élevage de canards. Voici leur reportage, grippe aviaire, vivre avec le virus.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Alors voilà, on est arrivé, on est sur une sorte de colline qui surplombe des champs. Il y a des chevaux aussi en contrebas, et puis il y a plusieurs bâtiments. Au loin, il y a un énorme bâtiment vert, très 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 grand bâtiment. Et puis là, il y a, autour de nous, il y a plusieurs petits bâtiments, des tracteurs. Ah, et voilà Cédric Vendée, je pense que c'est lui. Il est justement... sur son tracteur, j'imagine que c'est lui. On va lui faire des grands coucous. Ah. Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Enchanté, Cédric Vendée. Et vous êtes sur mon exploitation, donc éleveur des canards de chair sur la commune de Saint-Michel, Montmercure.
Eh ben super, on va faire un petit tour.
Oui, allons-y.
On va voir le grand bâtiment là-bas.
Oui. Il y a l'autre bâtiment, vous êtes passé devant le grand là-bas. Après, je suis là, le petit là, qui tourne depuis 30 ans maintenant, 32 ans.
L'exploitation de votre père avant,
voilà,
c'est ça.
C'est ça. Mon père, ma mère. Donc il y avait des vaches laitières autrefois, qui n'y a plus maintenant, il n'y a plus rien. Donc voilà, le village est vide, anormalement vide.
Ouais, c'est ça, il n'y a plus aucune volaille là,
non,
en ce moment.
Plus rien du tout. Ça va revenir, hein, mais quand, je sais pas.
On n'entend pas les mêmes bruits, on voit
ah
pas
non,
les
non.
mêmes choses.
Mais la preuve, là, c'est calme. D'habitude, il y a toujours du bruit, il y a toujours... Mais bon, c'est comme ça, on n'est pas les seuls. Hein. Il y en a d'autres, malheureusement.
Vous nous emmenez voir un peu, justement, ce grand bâtiment.
Ah ben, on peut aller là-bas, pas de soucis. On va aller là-bas. Vide depuis novembre, fin novembre.
Mais ça fait drôle, ça fait de la peine, mais bon, c'est malheureusement, on est tous dans le même bateau, hein, ça fait vraiment bizarre. On a son habitude tous les matins de venir là, faire son tour, mais là, les matins sont bizarres. C'est comme ça.
D'habitude, vous levez le matin et il y a combien de canards ici ?
Ah là, il y en a 18 500 dans celui-là. Ça commence à représenter quand même, hein. ça fait des beaux bâtiments. Là, on entend l'écho, c'est pas normal. Rien à faire dans les champs, pas de boulot autrement. Ça fait un grand vide, là. Ça fait vraiment drôle.
Compliqué mentalement, vous voulez dire ?
Oui, ça a pas été. Il n'y a pas eu que des bonnes nuits, hein. Faut pas dire. Celui qui dit qu'il dort bien depuis un an, c'est pas. Je pense que c'est pas vrai. Puis voilà, on est tout seul. On se sent tout seul, des fois.
Parce que vous avez été touché deux fois en plus en l'espace de quelques mois.
Au mois de mars l'année dernière, et puis au mois de novembre, là, cette année.
Qu'est-ce qui s'est passé alors au mois de mars ? La grippe aviaire est entrée dans votre élevage ?
Un matin, oui, que je suis arrivé là, j'ai dit, c'est pas bon. Et 40 à 50 morts. Puis ça a été l'hécatombe après. Enfin, j'étais le premier sur la commune. Mais bon, ça a pris les autres, les voisins, trois jours après, tout le monde était contaminé. Hein. Ce sentiment d'être le premier, ça fait drôle aussi. On se demande ce qu'on a fait, si c'est de notre faute, on sait jamais. Hein. Et bon, quand on voit que tout le monde y passe, malheureusement, on se dit que c'est pour tout le monde pareil. C'est un virus qui est très virulent quand même. Ça envoie. Ouais.
En tout, vous avez dû abattre combien de canards ?
La première vague, j'en avais 20 000, parce qu'il y avait l'autre bâtiment qui a été touché aussi. Et là, deuxième vague, il n'y a eu que celui-là. L'autre était vide, donc j'en ai eu 10 000, ici, là. Et malheureusement, à chaque fois, j'étais à 5-6 jours d'envoyer les canards à l'abattoir. C'est ce qui fait drôle aussi. On a travaillé 3 mois, on a fait les frais,
30 000 canards abattus en tout, c'est énorme. Rien que pour votre exploitation.
Oui. Ah oui, non, mais c'est... Puis, sans compter les voisins, sans compter... Non, c'est impressionnant. Et la vitesse que ça va, c'est... Ça se développe à une vitesse folle. Puis on peut rien y faire, malheureusement. Ça se balade dans l'air. C'est pas une erreur humaine. C'est pas... On peut rien y faire. Enfin...
Et après, c'est le balai des vétérinaires.
Après, c'est le... C'est les grands déchaînements, on va dire. Il y a les grands vétos qui débarquent. Il y a tout un protocole de décontamination. C'est pour rien. Hein. C'est pas simple à faire. Hein.
Tous en blouse blanche, c'est ça ?
Ah oui. Moi, là, le deuxième coup, j'avais même pas le droit de rentrer dans mon bâtiment, les jours qui sont arrivés. Au mois de mars l'année dernière, c'était pire. On a tout ramassé nous-mêmes. Et là, c'était... Faut dire quand même, c'était hard. C'était...
Vous avez ramassé vous-même les
canards ? Ah oui. Il a fallu qu'on se débrouille. Mais c'était tellement hécatombe partout, ils étaient débordés, il y avait... Personne ne pouvait venir nous aider, on était tout seuls. Les livrer à nous-mêmes, il a fallu qu'on se débrouille. Et heureusement, je dis heureusement qu'on a des voisins et qu'on est soudés entre nous. C'est pas tous les jours facile, mais bon, ça va quand même. On s'en remet.
Dites-moi financièrement comment ça se passe, parce que là vous avez pas eu d'activité pendant quoi, 9 mois en tout ?
Oui, en tout, oui. Mais l'été dernier, il a fallu attendre. On a eu 75% du lot qui est parti à la poubelle au mois de mars. Et après, il a fallu attendre. On a eu un premier versement en juillet et on a eu les derniers versements du vide sanitaire début mars.
Donc ça, ce sont des aides ?
Oui, des aides de l'État. Ça couvre pas tout, parce qu'on peut pas. Moi, j'étais obligé d'arrêter les remboursements de bâtiments pendant un an. J'ai pas eu le choix. Ça passe pas. C'est pas le si peu qui nous donne que ça, qu'on arrive à payer des bâtiments avec ça, c'est pas possible.
Est-ce que vous avez des prêts sur le dos, c'est ça ?
Ah bah oui, le bâtiment qui a 5 ans, il est pas fini de payer encore. Hein. Donc, on paye pas la valeur du bâtiment, mais on paye les intérêts.
En moyenne, du coup, vous gagnez combien par mois, vous, en tant qu'agriculteur ?
Moi, en moyenne, c'est dans les 1200 à 1300 euros, à peu près. Depuis un an, c'est pas le cas, parce que bon, j'essaye de pas pomper sur la trésorerie non plus.
Donc du coup, cette année, vous vous êtes versé combien par mois ?
Ça a pas été régulier. Après, ça a été selon les poids et les mesures. C'était un peu moins de 1000 euros par mois. Hein. Y a pas eu le choix. Heureusement que ma femme travaillait extérieur, hein, parce que ce serait compliqué sinon.
Vous êtes aussi allé faire d'autres emplois, d'autres boulots ?
Oui, l'été dernier, je suis parti un mois et demi faire la moisson.
Et là, comment vous voyez les prochains mois ? Quand est-ce que vous pensez pouvoir...
Moi, je pense remettre en place fin mai. Est-ce que ce sera le 20, 25, 30 mai ? Je sais pas du tout. J'espère être plein tout l'été, hein, mais toujours avec cette boule au ventre de se demander si ça va recommencer ou pas. Quoi. Une crise, il y en a eu des crises. Hein, bon, comme on disait, sur la vache folle, il y a eu sur les bovins, il y a eu la fièvre aphteuse, il y a eu une crise de la volaille comme ça. jamais connue. Jamais. C'est vraiment une crise qui n'est pas que chez nous. Dans les pays étrangers aussi. Hein. L'Italie, les États-Unis, l'Allemagne. Et là, ça met du monde à l'arrêt. Hein. Quand on compte tout, les usines d'aliments, les chauffeurs, tout, les abattoirs, tout le monde est arrêté. Hein. Tonnerre, viens là. Tonnerre, viens là.
Pour faire le point sur cette crise inédite de grippe aviaire, nous sommes désormais à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, en région parisienne, pour rencontrer Barbara Dufour. Elle est professeure émérite de maladies contagieuses et d'épidémiologie. Ce qui l'inquiète, c'est que le virus ne circule plus seulement l'hiver, il semble bien s'installer.
Cette année, pour la première fois, on a eu des foyers au cours de l'été, tant dans la faune sauvage que malheureusement en élevage. Et ça, c'est tout à fait inédit. Alors, il y a la saison qui est inédite, il y a la diversité géographique, c'est-à-dire qu'on a eu des foyers dans cette faune sauvage un peu partout en France. Et enfin, la troisième chose qui est inédite aussi, c'est le nombre d'espèces différentes d'oiseaux touchés. On a eu des oiseaux, notamment de la faune autochtone, c'est-à-dire, vous savez, il y a les oiseaux migrateurs, c'est pas tout à fait les mêmes que les oiseaux qui vivent chez nous. Et on a eu un certain nombre de foyers chez des oiseaux qui sont dits autochtones, c'est-à-dire qui vivent sur le territoire national. Alors évidemment, à un moment donné, c'est bienvenu quelque part, mais sauf que la sensation qu'on a eue, et quand on a regardé également les virus, il s'agissait des mêmes virus pour un certain nombre d'entre eux, d'autres ont été réintroduits, mais en tout cas, il y a eu cette circulation au cours de l'été, dans toute la France, sur différentes espèces d'oiseaux sauvages. Et ça, c'est très nouveau et très inquiétant.
Et ce n'est pas une mutation du virus ?
Alors, il y a eu des mutations de virus, que ce virus, comme vous le savez, c'est un virus à ARN, et donc il mute et il évolue en permanence. Bien sûr, le virus a évolué, mais on a aussi retrouvé des virus de l'an dernier dans certains de ces oiseaux, ce qui atteste clairement du fait que le virus est resté sur le territoire national. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce que les scientifiques appellent une endémisation, c'est-à-dire une implantation durable du virus sur le territoire ? On ne peut pas encore le dire. Il faut attendre pour savoir ce qui va se passer l'été prochain. Ça va être assez déterminant. Il faut savoir si on va encore avoir des cas dans notre faune sauvage. Ce qu'on voit quand même, c'est que dans le nord de l'Europe, chez nos voisins des Pays-Bas, et puis plus haut, Danemark, etc., il y a eu des cas également tout l'été et il semble bien quand même, puisqu'il y en a eu énormément, beaucoup plus encore que chez nous, il semble bien que le virus se soit un peu implanté.
Vous le disiez, le virus, il reste longtemps et il se propage aussi très très vite. Là, notamment pour parler des élevages, il suffit d'un pneu contaminé et ça circule partout.
C'est ça. Alors partout non, mais ça circule à côté. Oui, bien sûr. On a mis en évidence, notamment l'an dernier, au moment de cet épisode aussi dramatique dans les Pays de Loire, que les flux humains, et les flux d'animaux, bien évidemment, mais transportés par les gens, par les camions, etc., avaient joué un rôle très lourd dans la transmission entre élevages. Parce que le virus est très contagieux, il en faut très peu pour contaminer des volailles, et il survit dans l'environnement, donc il peut être transporté par des roues de camions, par...
Des vêtements,
par tout ça, quoi. Sans compter la proximité par le vent. Enfin, on a mis en évidence que quand des élevages sont très proches les uns des autres, surtout s'ils ont une ventilation dite « dynamique », les élevages qui sont sous le vent se contaminent, parce que le virus, il est transporté. Alors, il n'est pas transporté sur 25 km, mais il est transporté sur quelques centaines de mètres, voire un kilomètre ou deux, sans problème.
En tout cas, là, toute la filière est très vigilante sur les prochains mois. On le disait, on a peur que le virus s'installe, s'endémise. Est-ce que vous êtes inquiète ?
Oui, moi je suis inquiète, clairement, sur le risque d'endémisation. J'espère qu'on aura une bonne surprise cet été. Je ne vous dis pas qu'il va s'endémiser, mais je suis inquiète. Si le virus s'endémise, ça veut dire qu'on aura deux risques qui vont se superposer en permanence. Il y aura un risque toute l'année lié à la faune sauvage autochtone et il y aura un sur-risque lié aux migrations. Parce que n'oublions pas que nos canards et nos oies sauvages qui migrent vers le sud pour l'hiver descendent avec des virus. Donc il y aura des virus présents et d'autres virus qui vont être réintroduits.
Si le virus s'endémise, ça va changer complètement le travail des éleveurs. Il faut qu'ils s'adaptent. Comment vous voyez l'avenir des éleveurs ?
C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'ils ont des injonctions contradictoires, les éleveurs. À la fois, ils ont des injonctions d'élevage plein air, ouvert pour le bien-être, ce qui est tout à fait normal. Et à la fois, ils ont des injonctions de mise à l'abri en raison du risque d'oiseaux migrateurs. Donc j'allais dire qu'il va falloir s'adapter à ça. Si le virus s'endémise, l'enjeu, c'est d'apprendre à vivre avec ce type de virus, probablement.
Un peu comme le coronavirus.
Un peu comme le coronavirus.
Face à ce virus qui pourrait s'installer durablement, les éleveurs s'organisent. Lise Roseveil et Geoffrey Marianne sont allés rencontrer un exploitant dont l'élevage a été abattu il y a 4 mois. Ce jour-là est un jour particulier pour Thierry Lumineau. C'est la livraison de ses 85 000 nouveaux poussins. L'exploitation reprend vie.
Ça vous fait quoi comme émotion là, de revoir ces petits poussins sur votre exploitation?
Ben, au moins, on est content. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un bâtiment vide pour un éleveur. C'est reparti, quoi. C'est que l'affaire va se remettre en route et puis que tout le monde va retrouver sa place dans l'atelier, quoi. Et puis on va recommencer à nourrir nos citoyens. C'est surtout ça.
Thierry Lumineau est agriculteur à Sèvremont. Nous sommes toujours en Vendée. Avec ses deux associés, il gère une grande exploitation de 5 bâtiments.
Un coup de main à départ, là.
Ils sont beaux, ces poussins?
Oui. Ils sont beaux parce qu'ils sont à peu près réguliers. Ils sont pas tout petits parce qu'il y a le poussin de poulette, il y a le poussin de vieille poule. Là, je pense que c'est le cœur de gamme. Cœur de gamme, ça veut dire une poule qui a 40 semaines, un truc comme ça, quoi, 35-40 semaines.
C'est votre plaisir, ça, de voir les poussins, de voir...
Non seulement c'est mon plaisir, mais c'est mon métier. Je vis de ça, on vit de ça. C'est notre boulot. Hein. On n'est pas là pour ramasser du crevet. Hein. Non.
Par rapport au virus de la grippe aviaire, est-ce qu'il y a toujours une petite angoisse?
Elle est là, puis je crois qu'elle restera toujours aujourd'hui. Après, le poulet est moins sensible. Le canard est très diffusant. La dinde est très sensible. Et puis, l'angoisse, elle est là.
Vous reprenez que avec des poulets, parce que les dindons, c'est plus fragile.
Oui, je suis pas trop chaud pour le moment. Malheureusement, les 3 derniers lots de dindons qu'on a fait, on les a mis à la poubelle.
À cause du virus?
Oui. Alors, on va attendre un peu, là. Pour l'hiver prochain, je ne ferai pas de dindon. Parce que ramasser des cadavres qui font 12, 13, 14 kilos, je peux vous garantir que c'est le pire de notre métier.
Maintenant que la remorque est remplie, ils vont pouvoir aller la déposer à l'intérieur du premier bâtiment, un immense hangar. Voilà, ils ouvrent les portes. Le hangar est rempli de paille, il est chauffé aussi, en continu, depuis 5 jours pour pouvoir accueillir les poussins. Il y a 18 000 poussins qui vont pouvoir être dans ce bâtiment.
Ah, ça, c'est les poussins qui arrivent.
On les voit là, les petits poussins.
Oui, mais t'inquiète pas, tu vas les voir. Yannick, combien t'as de poulets en tout qui arrivent là, de poussins?
Là, il y en a 33 000, 30 000, 20 000. Ça fait 85 000 à peu près.
Vous faites quoi là exactement, Thierry?
Pour rentrer les poussins dedans, on peut pas rentrer chacun avec le machin. Alors on en emmène un gros bloc d'un coup. Le bâtiment, il est plein.
C'est reparti.
Oui, celui-là pour celui-là, c'est reparti. C'est parfait.
C'est la satisfaction?
Oui, complète. C'est pas gros, hein? 40 grammes.
Il est né ce matin?
Ah oui, là, il y a quelques heures, hein, sur les clos de ce matin. Là.
Il est tout doux.
Hey.
Il a eu peur de descendre?
Oui, ben ça arrive. Oui. Non, mais il y en a qui ont le vertige. Hein.
Donc là, vous faites aussi attention à toutes les mesures de biosécurité?
Oui. Quand il est rentré dans le bâtiment, t'as pas fait attention, toi. T'as pas regardé. Il a passé ses pieds dans un tapis de lune. Il n'a pas eu le choix. Désinfecte les pieds, c'est la seule chose qu'elle contacte pour la rentrée.
Le camion aussi, il est désinfecté?
Le camion, il est désinfecté à l'entrée. Là-bas. Il y a la barrière où il est rentré. Tu vois. De toute façon, la ferme, elle a un sens de travail. Les véhicules rentrent, ils sont désinfectés. Et ils ressortent par une sortie. Il n'y a pas de croisement de véhicules, quoi. Le sale, il rentre dans la zone propre, il se désinfecte. Et il ressort, il retourne dans la zone sale. Après, il y a l'intérieur du sas. D'abord, il n'y a que les éleveurs qui rentrent. Personne d'autre à faire d'y rentrer. C'est même interdit. Et là, tu commences par te laver les mains, passer dans un pédiluve. Ensuite, tu te rechanges et tu rentres dans le bâtiment après. Mais tu changes bottes et tenue pour travailler. C'est des choses obligatoires. Ça n'a pas empêché la maladie de rentrer.
Pour empêcher le virus de rentrer dans les exploitations, les éleveurs doivent respecter plein de mesures de biosécurité, c'est-à-dire confiner les volailles dans les bâtiments, stériliser les exploitations.
Bonjour à tous.
Mais tout ça, c'est difficile à mettre en place, ça chamboule beaucoup leurs habitudes de travail et il y a encore beaucoup de retard là-dessus, les scientifiques le disent. Alors des formations sont mises en place par les chambres d'agriculture. On s'invite à l'une de ces formations, à la chambre d'agriculture des Landes, à Mont-de-Marsan.
Alors, en fait, sur la biosécurité, donc, on avait parlé de risques de zootechnie. Il y a un gros risque aujourd'hui, vous le savez, c'est au niveau de l'influenza aviaire. On avait une interespèce qui était toujours un peu compliquée, puisque la mutation du virus, lorsqu'il passe de la volaille au porc, il peut y avoir un risque de transmission à l'homme. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les services de l'État sont assez, on va dire, assez regardants sur les multi-espèces. Le virus, on le retrouve en fait un peu partout. Alors on le retrouve un peu comme le Covid, hein, notamment dans l'air. Donc quand l'animal va respirer, inspirer, il va propager le virus. On va le retrouver dans le sang. Donc bien évidemment, alors IA++, influenza aviaire, c'est que plus il y a de plus, bien évidemment, et plus ce virus est présent au sein du flux, dans la plume, bien évidemment. Alors il n'est pas dans la plume en tant que tel, il est vraiment qu'on arrache la plume, mais il y a un peu de sang, c'est pour ça qu'on dit qu'il est dans la plume. Et bien évidemment, un des plus, le cas le plus compliqué à maîtriser, mais c'est les effluents, les fientes, qui sont très porteuses d'influenza aviaire, mais pas que, de salmonelle et de campylobactère. Donc en gros, ce sont des flux qu'on doit maîtriser.
Devant le rétroprojecteur, une dizaine d'éleveurs écoutent les explications des formateurs. On les invite à installer des filets de protection ou des effaroucheurs sonores pour éloigner les migrateurs porteurs du virus, ou encore à faire des prélèvements chaque semaine pour vérifier si le virus est entré dans leur exploitation. Certains prennent des notes, d'autres soufflent. Ils ne sont pas tous réceptifs. À la fin de la journée, une seule agricultrice accepte de répondre à nos questions.
Radeline Mallet, je suis en cours d'installation sur l'exploitation de mon père. Je prends sa suite sur une exploitation élevage-gavage de canards et transformation une petite partie en vente directe. Pour les cultures aussi, maïs, soja, tournesol, de 80 hectares sur la commune de Benké.
Donc là, c'est la première fois que vous suivez une formation sur la biosécurité. Qu'est-ce que vous en attendez ?
De comprendre un petit peu tout ce qu'on doit mettre en place pour répondre aux obligations, hein, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'obligations dans le monde agricole suite aux différents soucis sanitaires qu'on a subis. Donc après voir comment on peut les mettre en œuvre sur nos exploitations derrière et de quelle manière, quoi.
Vous avez conscience qu'il y a des choses à améliorer, qu'il y a encore du travail là-dessus ?
Il y a toujours des choses à améliorer. Dans la vie en général, de toute façon, on peut toujours s'améliorer. Après, faut voir si on peut l'adapter. Mais c'est pas toujours évident.
Pourquoi c'est compliqué ?
Parce qu'il y a des frais, souvent. Et quand on n'a pas de canard, on n'a pas d'argent qui rentre. Et quand on n'a pas d'argent, on a du mal, du coup, à financer ce qu'on doit mettre en place. Et puis, on avait des élevages plein air. C'est malheureusement plus trop le cas sur la période hivernale. Donc, ça nous impose d'avoir des bâtiments. Et on les a pas forcément, parce que les bâtiments qu'on a, c'est pour le matériel, normalement. Pas forcément pour les animaux.
Vous avez l'impression que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir de ces crises de grippe aviaire à répétition, ou ça sera pas suffisant ?
J'en suis pas persuadée, pour plusieurs raisons. Moi, j'ai pas le côté scientifique, donc je vais pas dire ce qu'il y a à faire, parce que j'en ai aucune idée. Je sais juste qu'il faut qu'on trouve des solutions, parce que la filière devient compliqué pour nous, hein. Ça fait 4 ans que de janvier à juillet, on ne peut pas produire. Hein. Et on n'a pas de salaire qui tombe à la fin du mois. Hein, donc il faut trouver des solutions. Je ne sais pas si la mise à l'abri en est une. C'est celle qu'on fait pour le moment. C'est bien et pas bien, parce que du coup, ça ferme encore plus nos exploitations. On n'a pas le droit de recevoir du public. Donc on peut encore moins informer le consommateur sur nos pratiques. la solution, je ne l'ai pas. Donc, on applique ce qu'on nous dit d'appliquer.
Et la vaccination, vous y pensez? Ça serait une solution?
Oui, je l'attends, parce que si c'est la solution, forcément qu'on l'attend. Après, c'est toujours pareil. On attend aussi de voir les modalités, parce qu'un vaccin, ça coûte cher, quel qu'il soit, que ce soit pour les animaux ou pour l'être humain. Donc si ça aussi, c'est à la charge de l'éleveur, à un moment donné, on va avoir un souci, parce qu'on ne nous achète pas les canards plus chers derrière. Plus il y a de charges, moins on gagne notre vie derrière. Donc, il va falloir trouver un juste milieu, je pense, entre les nécessités et la réalité.
Vous ne le voyez pas comme une solution miracle? Vous l'attendez avec...
Je ne sais pas s'il peut y avoir un miracle sur un virus. De toute façon, ça reste un virus. L'être humain y est confronté aussi. On l'a vécu là sur une longue période. Et malgré le vaccin, le virus est toujours là. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaie de mettre en place tout ce qu'il faut pour l'éviter au maximum. Faire du mieux qu'on peut et essayer des choses pour trouver la solution qui nous permettra de continuer à vivre de nos métiers et surtout à travailler.
Le Ménip. Foyeur.
On peut avoir un horizon, un objectif qu'on se donne et que j'ai réaffirmé là, c'est un horizon de l'automne, c'est-à-dire la prochaine saison, pour faire en sorte qu'on puisse disposer d'un arsenal, mais... Vous voyez bien, c'est pour ça que je donne, non pas des précautions, parce qu'il faut être prudent, il faut que le vaccin marche.
Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, le 23 décembre 2022.
On règle les sujets d'export aussi, parce qu'on a un parti des produits qu'on produit en France qui vont à l'export. Il faut qu'on se mette d'accord avec les pays qui reçoivent nos produits pour dire vous acceptez à vacciner ou pas vacciner. Donc on a toutes ces étapes à mener. Mais l'objectif que je fixe, c'est cet objectif de pouvoir passer la saison 2023-2024 avec quelque chose d'un vaccin et d'une stratégie vaccinale.
Vacciner contre la grippe aviaire, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour il y a encore quelques mois. Mais avec la crise inédite que traverse toute la filière depuis un an, la Commission européenne a donné son feu vert le 20 février dernier à une vaccination contre l'influenza aviaire. Et l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, est chargée d'expérimenter les vaccins, les futurs vaccins possibles. On va voir comment ça se passe dans l'un de leurs laboratoires dans les Côtes d'Armor.
Bonjour, je suis Béatrice Graland. Donc je suis responsable de l'unité immunologie, parasitologie aviaire et cunicole et responsable du laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire.
L'objectif, c'est bien à la fois de savoir si le vaccin est efficace en termes de symptômes et aussi en termes de transmission du virus.
On souhaite en effet qu'il soit protégé vis-à-vis de la clinique, des symptômes. Mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'il diminue l'excrétion virale et qu'on limite la diffusion et donc cette transmission entre animaux. En fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir contrôler cette diffusion et gagner du temps pour mettre en place d'autres mesures pour limiter la diffusion.
On va passer par le vestiaire parce que là, ça, normalement, on a un autre sas pour faire passer du matériel...
Il y a donc l'efficacité du vaccin, mais il y a la faisabilité. Là, sur la faisabilité, qu'est-ce que vous allez regarder?
Sur la faisabilité en élevage, c'est-à-dire que chaque solution vaccinale a ses problématiques, c'est-à-dire de conservation, à quelle température on doit les conserver, comment on doit les inoculer, parce que si on doit les inoculer en intradermique, en intramusculaire, en sous-cutané, ou alors, c'est ce type d'administration, d'inoculation du vaccin. Donc on doit regarder à quel âge on peut les vacciner, est-ce que c'est dans l'œuf? Donc tout ça, c'est ce côté faisabilité de vérifier en élevage si oui ou non ça peut être mis en pratique.
Il y a une autre contrainte, c'est la contrainte financière, le coût. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous prenez en compte?
Alors nous, de notre côté, on ne fait pas l'évaluation du coût. Après, sur le coût, il y aura forcément des coûts qui seront partagés entre les États et les producteurs. Et en effet, ça va être un équilibre entre toutes ces contraintes économiques, en effet, mais contraintes aussi scientifiques, c'est-à-dire de pouvoir différencier les animaux vaccinés et infectés, et de diminuer ce prix de vaccination aussi pour que ce soit économiquement viable par rapport à ce qui est la situation actuelle.
Ce qu'il faut dire aux éleveurs, c'est que le vaccin ne sera pas une solution miracle.
c'est un moyen de contrôle supplémentaire de se dire dans votre boîte à outils qu'est-ce qui peut me servir à diminuer l'impact de cette diffusion et de cette maladie de l'influenza aviaire. Le vaccin sera une arme supplémentaire ou un outil supplémentaire, vous le voyez comme vous voulez, mais en tout cas pour diminuer justement cet impact et d'aller gagner du temps. Et c'est forcément couplé à des moyens de biosécurité, c'est-à-dire pour éviter que le virus entre tout simplement dans l'élevage. Mais une fois qu'il est rentré, le vaccin permettra de limiter cette diffusion. Mais la première chose, la première protection, c'est d'éviter que le virus rentre. Donc même si vos animaux sont vaccinés ou pas vaccinés, c'est le premier rempart, on va dire. Donc ce sera forcément complémentaire. Je suis confiant dans le fait que le vaccin va pouvoir aider et apporter de l'amélioration sur le contrôle de la maladie. Ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on pense que ce soit la seule solution et la solution miracle et de baisser la tension vis-à-vis des autres moyens de lutte contre cette maladie, parce qu'ils sont également très importants. Et si on pense que la vaccination va tout résoudre, ce sera faux et on pourrait avoir une situation qui serait même pire que sans vaccination. Donc je pense qu'il faut garder en tête que la vaccination, c'est un outil supplémentaire et qu'il faudra vraiment faire attention pour ne pas se faire déborder et se dire que c'est gagné contre ce virus.
Depuis 2015, pas une seule année ne s'est écoulée sans que le département des Landes ne soit touché par la grippe aviaire. La réponse des autorités locales a été de dédensifier les élevages. C'est le plan Adour, il est unique en France. Tout repose sur un travail de cartographie devant un ordinateur.
Chaque item en fait représente une production. Donc on a les ateliers de salle de gavage, ateliers gras. Et après on a tous les ateliers volailles qui regroupent à la fois les poulets, les pintades, les chapons, tout ce qui fait en volaille de chair. Et aussi les ateliers de ponte.
Les vétérinaires ont classé les zones à haut risque de transmission.
Du coup, chaque carré violet représente un lot.
Donc on en voit beaucoup, beaucoup de carrés violets sur la carte.
Les élevages et les éventuels cas sont signalés. Et
en fait, si on fait un parallèle avec la ZRD, la zone à risque de diffusion.
De diffusion du virus, du coup, de la grippe aviaire.
Voilà. Donc voilà, la ZRD, elle est là. Et du coup, c'est encore plus concentré dans cette zone-là. Dès qu'il y a un cas dans cette zone, c'est catastrophique parce que dans la diffusion du virus, on a toujours du retard. Et du coup, ce qui fait qu'après, derrière, on a un nombre de cas qui s'amplifie. Quoi. Pour chaque cas, on a un point rouge qui apparaît sur la carte. Et du coup, oui, il y a des jours, on revient le matin, il y a 20 nouveaux points rouges. Voilà.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Nous retrouvons Lise Roseveil et Geoffrey Marianne à la Chambre d'agriculture des Landes avec l'un de ses élus. Il s'appelle Jean-Pierre Dubroca. Il est également le président de l'association sanitaire avicole.
On peut le dire, Jean-Pierre Dubroca, que la densité des élevages, ça accélère la diffusion du virus, on peut le dire.
Ah oui, ça a été identifié. Donc il y a eu un travail là qui a mené au plan Adour qui, sur les deux crises 2020-2021 et 2021-2022, justement avec le travail de cartographie, on a fait un retour d'expérience et ça tombe au même endroit, au même moment. Donc c'était forcément une zone dense, donc forcément ça diffuse rapidement et on ne peut pas l'arrêter. Donc l'idée du plan Adour, c'est tout le monde s'est mis autour de la table et on s'est dit, voilà, il faut forcément qu'on dédensifie la zone la plus peuplée, on a décidé de vider cette zone, là où il y avait le plus d'animaux, pendant la période la plus à risque, donc 15 décembre, 15 janvier. Ça voulait dire aussi que sur l'échelonnement des lots mis en place, il fallait commencer la dédensification dès le 15 octobre, et inversement, quand on remet en place, quand on commence au 15 janvier, c'est ceux qui ont vidé depuis octobre qui commencent au 15 janvier, et ceux qui ont vidé qu'au 10 décembre, ben ceux-là, ils remettront qu'au 15 mars. Donc on est dans une remise en place progressive. Donc voilà, donc toute la période à risque est à une densité limitée et une densité nulle entre le 15 décembre et le 15 janvier. Donc en fait, on n'est plus dans la production dense de l'hiver d'avant, eh bien là, on ne l'a plus entre le 15 octobre et le 15 mars. cette production dense.
On peut dire que c'est la crise sans précédent de l'année dernière qui a vraiment provoqué cet élan, cette idée de se dire qu'il faut faire quelque chose.
C'est les quatre crises en cinq ans, ça va au-delà de ça, dont deux sur les deux dernières années, d'une violence extrême, pour l'avoir vécu personnellement, c'était toujours de plus en plus fort. Très, très dur à vivre quand on est éleveur. Hein. Il fallait qu'on arrive à trouver des solutions. C'est nous, hein, par rapport au traumatisme vécu, on a dit, bon, maintenant, il faut qu'on se retrousse les manches, il faut qu'on invente quelque chose, il ne faut pas qu'on retombe, quoi. Et on a réussi. Il y a eu un cas dans les Landes, mais voilà, circonscrit, trois cas dans les Landes, circonscrit, pas de diffusion. C'est une vraie réussite. En tous les cas... On a passé un hiver serein psychologiquement parce qu'on n'a pas eu de crise. Voilà, on pense au Pays de Loire. Nous, pour l'avoir vécu les deux dernières années, voilà, ça, c'est terrible. Et là, franchement, on a retrouvé le plaisir de travailler. Et aujourd'hui, on était en réunion avant-hier pour réfléchir à comment on va organiser l'hiver prochain, parce que il y aura forcément une suite à ce plan. Alors, on va avoir à disposition la vaccination, normalement, à partir du mois d'octobre. Ce sera un élément supplémentaire pour pouvoir lutter, mais on sera dans un monde intermédiaire où on ne va pas, sous prétexte d'avoir la vaccination à disposition, revivre comme avant. Donc, il va y avoir des arbitrages encore qui seront complètement différents. La zone, peut-être qu'elle va changer parce qu'il y a des éleveurs, des producteurs qui ont arrêté parce que c'est traumatisant de vivre ça. D'autres parce qu'ils étaient en fin de carrière. Voilà, tout ça, c'est un travail à mener. C'est plein de facteurs rajoutés qui font qu'on en sort, quoi. Hein. La dédensification dont on parle, le plan Adour, c'est mettre moins d'animaux à un endroit, mais la biosécurité, les échanges entre les élevages, les transports, enfin, il y a plein de choses qu'on améliore au fur et à mesure. Quand on sera très très bon, peut-être que cette maladie elle aura disparu. Enfin, voilà.
On a vu avec le plan Adour que les chambres d'agriculture du Sud-Ouest et les interprofessions ont organisé un vide sanitaire pour réduire le nombre de volailles, la densité des élevages. Mais il y a aussi des éleveurs qui décident de le faire de leur propre chef toute l'année. C'est le cas de l'éleveur qu'on va rencontrer. Il est installé à Lesgore, c'est à 35 minutes en voiture de Mont-de-Marsan. On va le rencontrer là ce matin, le soleil vient juste de se lever.
Suivez cette route sur 5 km. Dans 3 km, prenez la deuxième sortie au rond-point.
On a dû les attacher. Nestor, viens.
Bonjour.
Non, ils sont en bâillissage. Cana, Cana, viens. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez trouvé?
Oui, on a dû mettre le GPS, hein, mais on a trouvé.
Et oui. Bienvenue dans la jungle landaise.
Vous nous faites faire un petit tour?
On aurait pu y aller en 4x4, non?
Ouais, on peut y aller en 4x4.
C'est possible, ouais, comme ça je vous amène et je vous explique en même temps.
Ouais.
Bon, il y a des fusils de chasse, n'ayez pas peur, je chasse. Christophe Mesplède, je suis éleveur de canards dans les Landes, de l'élevage qui est en label rouge pour faire du foie gras. Voilà, je suis éleveur depuis 1990.
Le label rouge garantit une production haut de gamme, avec moins de volailles et élevée plus longtemps.
Mais vous n'avez pas toujours été en label rouge, vous avez
non,
aussi
j'ai pas
été...
toujours été en label rouge. J'ai été sur des systèmes industriels jusqu'en 2017. Et j'ai fait le choix de réduire fortement mes volumes de production et de revenir à quelque chose d'un peu plus traditionnel, quoi. Je le regrette pas, mais tout compte fait, c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Donc moi, en fait, je fais du canard depuis 1986. Et dès 90, on a été démarché par des maisons d'aliments pour mettre en place des ateliers d'élevage. Et ça correspond à une période où on est passé en 90, on devait être à 6 millions de canards produits en France. Et cette période a réorganisé la filière, quelque part, pour nous amener à 30 millions, à l'explosion des volumes de production. On a multiplié par 5 le nombre de canards.
Et ça, vous l'avez vu même dans les paysages autour de vous, les
bâtiments
qui poussaient.
Complètement.
Vous, c'était pour vous prémunir de la grippe aviaire que vous avez décidé de changer de modèle.
Oui, moi je suis convaincu qu'on a fait fausse route sur les problématiques sanitaires. On a concentré des animaux, alors qu'au contraire, il faut déconcentrer et rémunérer les producteurs par la qualité. Faire de la valeur ajoutée, moins de canards, mais avec une valeur finale plus chère. C'est que comme ça qu'on peut rémunérer correctement les producteurs. Donc là, ce bâtiment, voilà, c'est un bâtiment qui est fermé. Alors là, j'ai pas de caneton encore. Mais je vais en recevoir. Et en fait, ensuite, je les déplace et je les amène en parcours non abrité. Vous allez vous mouiller les pieds. J'ai un bâtiment que je me suis monté moi-même. C'est un bâtiment qui de type tunnel avec amélioré, avec du chauffage à l'intérieur. Voilà,
donc dans ce bâtiment, vous avez combien de canards en même temps?
Ben là, j'en mets 2000. Je mets 2000 canards.
Et avant, vous en mettiez combien?
Le double. Et, ils étaient vite à l'étroit, quoi. Mais 2000, c'est un bâtiment de 400 mètres carrés. Ils sont bien, quoi.
Et donc, sur une année, maintenant, vous produisez combien de canards contre combien avant?
Avant, sur le système Indus, on était autorisé à 36 000 par an. Mais moi, je me limitais à 28 000, quoi, à peu près. Je me limitais parce que, je trouvais déjà 36 000, ça faisait beaucoup.
Et maintenant,
je suis à 16 000, 15-16 000, quoi. J'ai quasiment divisé par deux. Et et puis c'est beaucoup moins stressant. Ouais. Au niveau du revenu, j'ai pas vu beaucoup de différence. J'ai pas divisé par deux mon revenu, je l'ai maintenu, on va dire. Un éleveur qui connaît bien son métier, il sait très bien que plus on concentre de la production, plus on concentre des animaux sur un parcours donné, plus on crée des problèmes sanitaires, environnementaux, même de stress chez l'éleveur. Donc c'est contraire, ces politiques de volume, elles sont tout à fait contraires au bien-être animal. Quand on nous dit qu'il faut charger les animaux, il faut en mettre 1000 dans le camion en une heure au lieu de 500, c'est clairement les animaux qu'on manipule rapidement, plus rapidement. Donc le bien-être animal et le bien-être des éleveurs, parce que toute cette pression permanente, c'est insupportable, quoi. On sait que le stress en élevage, c'est le premier facteur de risque pour développer n'importe quelle maladie, et y compris la grippe aviaire. Donc, pour qu'un animal il soit pas stressé, qu'est-ce qu'il faut ? Il lui faut de l'eau à volonté, de l'alimentation à volonté, au moins pas dans la phase la plus sensible. Et ensuite, il lui faut de l'espace et de l'herbe.
Justement, être en plein air, ça les rend plus résistants aussi ?
Complètement.
À la grippe aviaire ?
Complètement. Mais complètement. Il faut qu'ils soient en plein air, mais pas sur une concentration importante. Mais il est vrai que le modèle le plus approprié faire de la qualité et éviter ces problèmes de dissémination de la maladie, c'est le système autarcique, sur lequel on ne déplace pas les animaux. Ça, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Parce que vous êtes vice-président du MODEF, le mouvement pour les éleveurs familiaux. vice-président dans les Landes, la Confédération paysanne et le MODEF appellent à un moratoire pour plus avoir de nouvelles installations d'éleveurs sur les territoires très denses. C'est ce que vous voulez ?
Tout à fait. En ce qui concerne le foie gras, parce que c'est une production que je connais, le poulet c'est un peu différent. Mais le foie gras, c'est une production qui est festive. C'est un produit festif, le foie gras. On fait pas du foie gras pour nourrir les gens. Donc, il faut arrêter de rêver là-dessus, de créer des nouveaux bâtiments pour continuer à produire on ne sait plus pour qui. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut un moratoire sûrement sur l'expansion, le développement. Il faut arrêter et ensuite, il faut revenir à la raison. On a des foie gras au moment qui étaient moins chers au kilo que le saucisson. Donc, est-ce que c'est normal ? C'est pas normal. Il faut que le foie gras, ça soit un moment de convivialité, un produit festif, et arrêter de croire qu'on peut manger du foie gras toute l'année. Ça, c'est, si vous êtes en capacité de payer, si la ménagère, elle peut acheter du foie gras toute l'année, ça veut dire qu'on sera tombé qualitativement au niveau du pâté au lida, etc. Donc, c'est pas vers là qu'il faut tendre.
Grippe aviaire, vivre avec le virus, c'était un reportage de Lise Roseveil avec Geoffrey Marianne à la prise de son, réalisation Maria Pasquet, assistée de Martine Messonnier, mixage Bastien Varigaud. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà cette émission sur le site de France Inter.